Voilà, bonsoir et bienvenue. Nous allons commencer notre soirée. N'hésitez pas à avancer hein, si vous pensez que voilà, il y a encore de la place. Bon, il reste quelques places au fond, mais aussi devant. Voilà, je voudrais d'abord excuser Isabelle Baucher, enfin doyen de la faculté de philosophie, et qui, avec Alain Thomassé, enfin il y a une réunion des doyens des facultés à Rome demain, et en raison des probabilités ou des grèves d'Air France, il a semblé sage et nécessaire de partir ce soir. Voilà, ce qui explique son absence. Ce soir et dans l'animation de cette rencontre. Alors, je suis très heureux d'accueillir Sébastien Laoureux, qui est professeur de philosophie à la faculté de philosophie et lettres de l'université de Namur, université avec laquelle nous entretenons depuis plusieurs années des liens privilégiés. Et cette conférence sera suivi d'ailleurs demain matin pour les doctorants de philosophie d'un séminaire. Donc Sébastien Laoureux vient à la fois pour cette conférence et pour une séance de travail avec les doctorants demain matin. Voilà, ce qui signifie bien les échanges que nous souhaitons développer entre nos deux institutions. Alors Sébastien Laoureux enseigne dans le champ de la phénoménologie, de l'anthropologie phénoménologique en particulier, dont il est spécialiste. Il a publié un livre qui s'appelle « L'immanence à la limite » aux éditions du Cerf, recherche sur la phénoménologie de Michel Henry. Dont il est spécialiste, mais ce soir ne parlera pas de Michel Henry. Sébastien a de nombreuses autres activités, participations dans bien des domaines et de nombreux intérêts. Voilà, ces intérêts sont larges. Alors ce soir, c'est de la question de l'utopie qu'il nous parle, l'utopie future et ou impossible, point d'interrogation. Avec cette question qui termine l'argument de la soirée, avons-nous besoin d'un tel concept ou doit-on, peut-on s'en passer? Eh bien, avec cette question, je lui laisse la parole.
Merci Henri, bonsoir à tous. Merci pour votre présentation, merci aussi pour l'invitation qui m'est faite d'intervenir ce soir au Centre Sèvres. Je me réjouis aussi des très bonnes collaborations, en effet, que nous entretenons. Le département de philosophie de l'université de Namur, le Centre Sèvres, la faculté de philosophie. Vous étiez à Namur il y a quelques semaines. Voilà. Isabelle Baucher, quelques temps auparavant. Nous avons quelques doctorats aussi en co-tutelle. Et puis je me réjouis de retrouver un ancien collègue, Étienne Ganti, qui a marqué pendant de longues années le département de philosophie à Namur et qui est maintenant ici au Centre Sèvres et qui fait donc ce lien de collaboration. Alors oui, je vous ai proposé en effet ce soir une conférence sur l'utopie. Alors pourquoi un tel sujet? D'abord, je dois vous dire que je ne suis pas un spécialiste de l'utopie et par ailleurs, il est assez difficile de se dire spécialiste de l'utopie tant c'est un sujet vaste. Il y a une littérature immense consacrée à l'utopie, pour ne pas dire abyssale, à laquelle il est d'ailleurs souvent difficile d'assigner des limites. Est-ce qu'il y a encore de l'utopie là où on n'utilise pas le terme, etc., qui augmente un petit peu la difficulté. Alors pourquoi l'utopie? Pour des raisons très conjoncturelles d'abord, puisque nous sommes engagés à Namur avec quelques collègues dans un projet sur plusieurs années qui concerne cette notion. Alors je sais aussi qu'ici au Centre Sèvres, la session de rentrée était consacrée à l'utopie, donc je serais heureux d'en discuter après mon intervention avec ceux qui ont participé à cette session. Et puis enfin, des raisons peut-être un peu plus précises, il s'agit, je pense, d'une question d'actualité et aussi d'une question d'actualité philosophique, et peut-être négativement d'actualité philosophique, parce que il me semble qu'on peut faire le constat d'une tendance non négligeable, alors il faudrait nuancer ce que je suis en train de vous dire, mais on peut faire, me semble-t-il, le constat d'une tendance non négligeable de la pensée, de la philosophie contemporaine, critique, à récuser le concept d'utopie, ou à tout le moins à ne pas travailler avec ou à partir de ce concept.
Alors, on pourrait évoquer, je pense, une série de noms. Je vous donne quelques exemples, on peut en discuter après mon intervention. Pensez comme celle de Jacques Derrida, par exemple, chez Foucault, chez quelqu'un comme Castoriadis, chez Deleuze. Toutes ces pensées refusent de mobiliser le concept et sont même critiques à son égard. Et je pense que ça nous amène à poser cette question que je posais dans mon petit argumentaire et que Henri Lau rappelait. Je pense que ces pensées nous placent face à cette question. A-t-on besoin d'un tel concept, ou est-ce un mauvais concept dont il conviendrait de se passer? Alors l'hypothèse que je tenterai de suivre et de défendre ce soir devant vous, c'est qu'en effet, il s'agit sans doute d'un mauvais concept. Mais c'est sans doute précisément pour cela qu'il est intéressant et qu'il peut être mobilisé. Alors, cela, je vais le développer, évidemment, à partir d'une perspective essentiellement philosophique, laissant de côté, évidemment, bien des éléments qui pourraient être convoqués. Alors, je commencerai, donc voilà le petit parcours que je vous propose, tout ça va se préciser en route. Je voudrais revenir d'abord sur les paradoxes de ce concept, m'interroger sur sa fragilité, interroger les liens entre idéologie et utopie, et enfin, aborder, à partir d'un auteur qui est Karl Mannheim, je vais vous en reparler, aborder une typologie des différents types d'utopie. Alors, avant d'aborder le paradoxe de l'utopie, il ne me semble pas inintéressant, très simplement, de repartir du sens que l'utopie a le plus spontanément dans le langage courant. Et il faut bien reconnaître, je pense que vous me suivrez jusque-là, que dans le langage courant, pour le sens commun, elle a plutôt, même si c'est pas toujours le cas, mais elle a plutôt une signification négative, voire péjorative. Une construction, l'utopie renvoie à une construction fictive, le plus souvent très organisée, pas très réaliste, oublieuse du réel, et les utopistes, ce sont plutôt de gentils rêveurs, un petit peu naïf quand ils ne sont pas dangereux. Si on ouvre le dictionnaire, les choses se vérifient. Je vous ai mis ici, je ne vais pas tout relire, la définition que propose le Robert. L'utopie, pays imaginaire, où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux, idéal, vue politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité. Et les synonymes sont assez intéressants. Chimère, illusion, mirage, rêverie. Alors, il me semble qu'à cette première approche, on peut ajouter l'idée, et je l'évoquais rapidement, mais on peut ajouter l'idée que l'utopie aurait aussi un caractère dangereux, dangereux lorsqu'elle est réalisée, ou lorsqu'on tente de la réaliser, et on pourrait évoquer ici, ce qui est fait en général spontanément, le communisme, les différentes formes de totalitarisme seraient des utopies réalisées. Et si l'on voulait être plus précis, il faudrait avancer cette idée, me semble-t-il, que l'utopie est dangereuse en ce qu'elle nous invite à configurer la réalité sociale et politique sur le modèle d'une cité idéale, en ignorant les circonstances concrètes, les aléas de l'histoire, etc. Donc, conclusion provisoire, deux reproches, me semble-t-il, sont faits assez spontanément à l'égard de l'utopie, son irréalisme et ses dangereux fantasmes de perfection. Alors, il me semble évidemment que si l'on regarde les choses d'un peu plus près, ce que je voudrais faire très modestement avec vous ce soir, on constate que les choses sont peut-être un petit peu plus compliquées, et les choses sont plus compliquées d'abord sans doute parce que le concept ou la notion d'utopie, même si cela est moins fréquent, elle est aussi mobilisée parfois de façon positive. Soyons utopistes, rien n'est impossible, il faut être utopiste, etc. Donc l'utopie se révèle une notion, au premier abord, qui peut tout à la fois être mobilisée négativement, mais aussi positivement. Donc l'utopie pour le meilleur et pour le pire, en quelque sorte. Alors l'utopie, comme je le disais en commencement, n'est sans doute pas dès lors un bon concept, tant le manque d'univocité qui la caractérise semble flagrant. Hein, parfois, on ne sait plus très bien de quoi on parle quand on parle d'utopie. Hein. Le terme semble souffrir d'une usure sémantique, pour reprendre une expression de Ricoeur. Donc l'utopie n'est sans doute pas un bon concept, parce qu'elle est ambiguë, parce qu'elle est paradoxale, hein, et sans doute pour une large part aporétique, mais c'est sans doute ce qui la rend intéressant. C'est sans doute ce qui rend le concept intéressant. L'utopie, c'est un concept, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, qui nous invite finalement à une certaine forme de vigilance, puisque l'utopie, certes, a très certainement à voir avec l'émancipation, avec une logique émancipatrice, donc c'est l'utopie pour le meilleur, en quelque sorte. Mais un tel concept nous rappelle aussi que l'émancipation peut se retourner ou déboucher sur le pire. L'utopie, hein, pour le pire ici en quelque sorte, qui se retourne en son contraire, l'oppression. Alors, ceci étant dit, je vous invite hein, à essayer d'analyser ce que serait le paradoxe de l'utopie. Il me semble que l'un des premiers pièges à éviter lorsqu'on aborde ce concept, c'est de ne pas le considérer d'abord ou systématiquement comme une hypothèse en attente de sa confirmation. Donc, l'utopie n'est peut-être pas d'abord à penser, et c'est le travail que je vais essayer de vous proposer, comme une projection vers le futur, qui ferait d'elle en quelque sorte un réel en suspens. Hein. Pour défendre une telle perspective, il faudrait considérer que est coextensif à l'utopie le concept de réalisabilité. Hein, il faudrait avancer cette idée que l'utopie contient dans son concept la réalisabilité, la possibilité qu'elle soit réalisée. Contre une telle idée, contre une telle tendance, hein, il me semble qu'il faut insister sur le fait que l'utopie n'est sans doute pas d'abord la présentation anticipée d'un autre monde susceptible d'exister dans le futur, mais elle est plutôt d'abord la mise en forme d'une position théorique ou d'une pratique qui a pour objet en fait notre actualité, le présent. Donc l'utopie n'a peut-être pas la dimension futuriste que l'on lui donne spontanément, et c'est ce qui nous amène à la distinguer d'un genre littéraire à laquelle on l'associe spontanément, enfin spontanément en tout cas souvent, la science-fiction. Donc ce que vise l'utopie, en d'autres termes, ce serait ce monde-ci. Hein. Alors je vous ai mis ici une citation que je tire d'un ouvrage de Pierre-François Moreau, Le récit utopique, hein, qui dit ceci, qui illustre cette idée, hein, à qui prétendrait que ces mondes, donc ces mondes utopiques, sont invivables, on ferait remarquer qu'ils ne sont précisément pas faits pour y vivre, sans quoi leurs auteurs auraient écrit des projets de réforme et non des utopies. Donc en d'autres termes, l'utopie n'a pas cette dimension futuriste qu'on lui attribue, hein, et je vous donne ici une autre formule que je prends d'un autre ouvrage consacré à l'utopie, c'est cette fois chez Pierre Macheret, hein, dans son ouvrage « De l'utopie », qui écrit « Loin de se projeter vers un réel différent, dont elle donnerait par avance une libre représentation, l'utopie correspond à la nécessité objective dans laquelle se trouve le réel, tel qu'il existe actuellement, d'effectuer un retour critique sur soi, qui le met à distance de son existence présente, inquiète ses certitudes acquises, perturbe son ordre donné, dans une perspective de délégitimation et d'excentration qui remet en cause la cohésion. » Alors, une phrase un peu longue, mais dont le message est assez simple. Hein. L'utopie, finalement, a quelque chose de dérangeant, hein, voire même parfois de corrosif, pour la réalité effective, puisque les possibilités qu'elle évoque, bien loin de s'opposer au monde existant, lui sont en quelque sorte concomitants. Hein. Les possibilités qu'évoque l'utopie ont pour fonction de révéler des failles, en d'autres termes, hein, des failles, l'inadéquation à soi du monde existant. Alors, je vous propose, je ne vais pas vous assommer de citations, hein, mais quelques citations qui me semblent exemplaires, cette fois pour montrer aussi que les grands penseurs contemporains de l'utopie parfois vont dans le même sens, cette fois chez Paul Ricoeur, qui écrit ceci, hein, « De ce non-lieu, donc de l'utopie, une lueur extérieure est jetée sur notre propre réalité qui devient soudain étrange. Plus rien n'étant désormais établi. Le champ des possibles s'ouvre largement au-delà de l'existant et permet d'envisager des manières de vivre radicalement autres. L'imagination d'une autre société, située nulle part, ne permet-elle pas la plus fantastique contestation de ce qui est ? Donc, l'utopie, pourrait-on dire, c'est une paradoxale intervention d'une non-réalité, du non-être, hein, à même la réalité de l'être, qui empêche cette réalité effective de coïncider complètement avec elle-même. L'utopie exprimerait peut-être en ce sens-là, et je reprends l'expression à Pierre Macheret, hein, une belle expression, l'utopie exprimerait peut-être en ce sens-là une immanence de l'au-delà. L'utopie n'est nulle part réalisée, ni même peut-être réalisable, en tout cas elle n'est pas réalisable en bonne adéquation, hein, elle n'est jamais réalisable complètement. Et donc, en ce sens, me semble-t-il, alors ça devient un peu plus subtil ici, en ce sens, me semble-t-il, il faut affirmer également que les pouvoirs critiques de l'utopie, s'ils portent certes sur la réalité effective, eh bien, ils portent aussi à l'égard de l'accomplissement qui est annoncé par l'utopie. Donc, pour le dire autrement, la distanciation critique qui serait proche à la démarche utopique, elle opère finalement dans deux sens. Il s'agit de questionner notre monde, hein, de réinjecter du possible, mais l'interrogation critique porte aussi à l'égard de la positivité qui est annoncée par l'utopie. Donc, une distanciation critique qui fonctionne en quelque sorte dans deux sens. Hein. Et donc ça renforce évidemment l'aspect sans doute paradoxal de l'utopie. Vous voyez qu'elle est critique à l'égard de notre monde, mais tout se passe comme si elle était critique également à l'égard de cette dimension projective qui lui est inhérente, hein, à l'égard de la positivité qu'elle annonce. Donc l'utopie semble bien faire signe vers un au-delà de ce que nous vivons actuellement, vers un au-delà de l'effectivité, mais tout se passe comme si elle était toujours déjà en train de nier l'avènement de cette effectivité à venir, comme si elle était critique à l'égard de la possibilité que ce qui est annoncé advienne en tant que tel. Alors, de telles caractéristiques, me semble-t-il, peuvent être trouvées eh bien, dans la première utopie, hein, première utopie, alors que celle-ci n'est encore qu'un nom propre, hein, dans l'Utopia de Thomas More. Alors Thomas More, lorsqu'il rédige le texte au début du XVIe siècle, 1516, vous le savez, il crée le terme latin à partir du grec, hein, le préfixe privatif « u » ou « ou » et « topos » le lieu, hein, donc « utopia », c'est le non-lieu ou le lieu de nulle part. Mais More joue explicitement sur l'ambiguïté avec une autre étymologie possible. Utopia. Le préfixe « e » renvoyant à « bon hein, », donc « utopia », le lieu bon, le lieu heureux. En d'autres termes, vous voyez comment à tenir ces deux étymologies possibles, ces deux significations ensemble, le lieu heureux, le lieu parfaitement heureux, eh bien n'existe nulle part. Voilà l'un des messages, sans doute, de l'utopie de More. Et une telle ambiguïté, hein, une telle réflexivité critique sur son propre travail, sur ce qu'il décrit sur l'île d'Utopia, eh bien, une telle ambiguïté, inhérente au terme même d'utopie, se retrouve à la lecture de l'ouvrage. More avait bien conscience, hein, qu'il n'était pas en train de jeter les bases d'une configuration politique à appliquer telle qu'elle. Hein. Alors l'ouvrage, vous le savez sans doute, qui n'est pas très long, est composé de deux parties, et c'est dans la seconde partie de l'ouvrage qu'est décrite l'île d'Utopia. Donc ce royaume imaginaire dirigé par Utopus, hein, royaume qui est caractérisé notamment hein, par une organisation parfaite, où prévaut l'intérêt public sur les intérêts privés. C'est une île, je vois que je m'emmêle dans mes slides, c'est une île un lieu donc qui est caractérisé par une abolition de la propriété privée, donc les biens sont mis en commun. Mais cette partie est précédée d'une première partie qui est en fait consacrée cette fois à l'Angleterre de l'époque de Thomas More, une Angleterre qu'il connaît bien, hein, il travaille, vous le savez, auprès d'Henri VIII, une Angleterre qu'il connaît bien et qu'il décrit dans cette première partie avec ses insuffisances, avec ses inégalités, avec ses injustices. Et donc vous voyez comment tout l'intérêt du livre va résider évidemment dans le jeu entre ces deux parties. À travers cette entreprise comparatiste, entre guillemets, la vision utopique de la seconde partie se trouve mise en perspective, se trouve relativisée par la seconde. Donc ça permet de lever l'impression que la vision utopique subsiste très complètement à part du réel, sans aucune attache avec lui. Hein. Cela permet de montrer un ancrage de l'utopie dans la réalité. L'utopie, donc la seconde partie de l'ouvrage de More, se présente comme une espèce de réponse apportée par des questions qui viennent de son époque, hein, de la réalité qu'il connaît. Mais évidemment, et c'est là où je voulais en venir, ça ne signifie pas que cette réponse, donc la seconde partie du livre, est à fournir la preuve de sa faisabilité. L'utopie ne propose pas un programme, ni une description qui aurait valeur de modèle à appliquer tel quel. Et donc, elle n'a aucune raison de se soucier des conditions de sa possible application. En fait, l'utopie, on le retrouve ici, a une fonction essentiellement critique pour la société de son temps. Mais encore une fois, une telle fonction critique ne détient pas la clé ultime. Hein. Une telle fonction critique n'éclaire pas son aboutissement. C'est en ce sens qu'une telle fonction critique, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, porte dans deux sens. Elle porte aussi sur la partie constructive de l'ouvrage, sur la seconde partie. Hein. Celle-ci ne se referme jamais sur une bonne solution, hein, sur une solution pourrait être appliquée telle qu'elle. Donc, l'utopie ne doit pas s'arrêter, s'enfermer, se clôturer sur une solution. Il s'agit, hein, c'est ce que montre notamment un grand commentateur de More, hein, Miguel Abinsour, il s'agit en quelque sorte de faire séjourner l'utopie dans une forme de problématicité. Et de façon subtile, hein, quand on lit le texte, on constate que More maintient l'ambiguïté jusqu'au bout, avec l'humour, l'ironie, hein, l'ordre politique juste et bon, la question de l'ordre politique juste et bon est elle-même contaminée. Elle devient à son tour énigmatique, hein, et elle semble ouvrir finalement sur une recherche sans fin, hein, qui ne peut pas aboutir. Donc le bon lieu, le lieu heureux n'existe nulle part, comme je le disais tout à l'heure, il permet en fait d'insuffler la critique sur notre monde, mais il nécessite lui-même d'être constamment questionné. Et je vous donne encore une petite citation, c'est la toute dernière phrase de l'utopie de More, qui montre que l'ambiguïté est maintenue jusqu'à la fin du texte, hein, puisqu'il, au moment de refermer l'ouvrage, il a cette formule. Je reconnais bien volontiers qu'il y a dans la République utopienne bien des choses que je souhaiterais dans nos cités, je le souhaite plutôt que je ne l'espère. Hein. Donc, en quelque sorte, trop d'espérance précise tue l'espérance. Hein. Il y a donc, jusqu'à la fin, cette forme de retenue à l'égard de la positivité même de l'utopie. Alors, ceci étant dit, j'ai exploité évidemment la veine très positive de l'utopie jusqu'ici, ceci étant dit, il faut reconnaître, être naïf, hein, et reconnaître que l'utopie est habitée, travaillée par une forme de fragilité, et il faut reconnaître que cette tension constitutive que je viens d'évoquer, hein, ce paradoxe de l'utopie que je viens d'évoquer, peut en quelque sorte se défaire de façon négative. L'utopie apparaît, je viens de le dire, hein, comme une réalité à double face, tout à la fois critique à l'égard de l'état présent, mais aussi critique à l'égard d'elle-même. Et donc on voit comment, à ne conserver qu'une seule de ses faces, hein, cette dimension de projection vers l'avenir, sans le versant critique à son égard, on voit évidemment comment l'utopie peut se retourner en ce qu'elle n'est pas d'abord, hein, peut se retourner en son revers normalisateur et verser dans une forme d'oppression. Alors, excusez-moi, je m'emmêle un peu dans mes slides. Voilà la citation que je voulais vous donner. C'est à nouveau, nous sommes à nouveau chez Ricoeur, hein, qui illustre cette idée, je trouve, très clairement. Donc, en même temps que nous comprenons et que, pourquoi pas, nous admirons le radicalisme de l'utopie, nous en apercevons aussitôt les faiblesses. Au moment où l'utopie engendre des pouvoirs, elle annonce des tyrannies futures qui risquent d'être pires que celles qu'elle veut abattre. Donc vous voyez comment, d'un côté, l'utopie exprime la conscience que quelque chose ne va pas dans notre monde, et on ne peut pas tolérer que ça continue comme ça. Mais d'un autre côté, elle a aussi une tendance à vouloir combler cette lacune qu'elle dénonce, hein, et elle s'engage parfois dans une démarche de sens inverse, qui n'est plus contrebalancée, une démarche de sens inverse qui va consister cette fois à faire le plein, hein, à promulguer des règles, un excès de règles, hein, en avançant la promesse que si on les respecte, ces règles, ben, tout va très bien se passer, peut-être même trop bien, hein, comme on risque très vite de s'en apercevoir. Donc, vous voyez comment tout se passe comme si la revendication émancipatoire qui est portée par l'utopie, eh bien, était inséparable de la possibilité de son revers aliénant, hein, son revers aliénant d'oppression. Donc, promesse d'émancipation et dispositif d'oppression semblent finalement, dans le cas de l'utopie, s'inscrire, hein, sur une même feuille de papier, comme l'envers et comme l'endroit, hein, et pouvant toujours basculer d'un ou de l'autre côté. Et c'est évidemment un tel aspect négatif, hein, de l'utopie qui est exploité par un genre littéraire qui s'est développé essentiellement à partir du XXe siècle, XIXe, XXe siècle, la contre-utopie ou encore la dystopie, hein, dystopie, le lieu mauvais. Il s'agit donc bien pour la dystopie de décrire l'idéal de perfection ou la fixation abusive sur la cohérence qui serait inhérente à l'utopie et qui pourrait évidemment déboucher sur la menace totalitaire. Pensez à ces dystopies les plus célèbres, 1984 d'Orwell par exemple, Le meilleur des mondes de Huxley, hein, pour ne donner pardon que deux exemples. Donc avec l'utopie, il semble bien que le meilleur et le pire se côtoient, puissent basculer l'un dans l'autre, hein, avec encore une fois cette possibilité, mais que ce ne soit le pire, hein, évidemment, peut-être avec les meilleures intentions qui ne prennent le dessus. Alors on voit comment ici, l'utopie est finalement extrêmement proche de l'idéologie. Elle est très proche de l'idéologie puisque, comme l'idéologie, elle semble vouloir faire apparaître comme nécessaire, comme naturel, ce qui n'est au fond que contingent. Hein? L'utopie comme l'idéologie, dans ce cas-là, se servirait de moyens artificiels, puis finalement pour tenter de donner l'impression du naturel et de la nécessité. Elle tend, hein, à s'inscrire avec une espèce d'irrécusable évidence dans l'ordre des choses. Alors, ces rapports entre idéologie et utopie, sur lesquels je voudrais m'attarder maintenant, eh bien, ils ont notamment été travaillés par Paul Ricoeur, que j'ai déjà abordé quelques fois. Paul Ricoeur, qui, dans son travail intitulé « L'idéologie et l'utopie », eh bien, a cherché à montrer que les deux termes avaient certes d'abord une connotation négative, hein, et en ce sens, Ricoeur montre que l'idéologie et l'utopie, un peu comme je l'ai déjà montré pour le cas de l'utopie, ont d'abord peut-être une fonction qu'il appelle pathologique. L'utopie est une fuite du réel, mais l'idéologie est une distorsion ou une dissimulation, hein, de la réalité sociale. Alors tout le travail de rigueur est évidemment de montrer qu'il ne faut pas en rester à ces fonctions pathologiques ou négatives de l'utopie et de l'idéologie, mais qu'elles peuvent avoir un sens proprement positif. L'idéologie a finalement un rôle de stabilisation du réel. Il permet à une collectivité de se doter d'une identité. Il a donc un rôle de stabilisation. L'utopie, de son côté, possède une fonction de subversion qui va permettre, dit-il, à la réalité de ne pas se scléroser et donc de faire évoluer les choses. Et donc, la thèse défendue par Rigueur, c'est que l'idéologie et l'utopie sont complémentaires. Nous avons besoin d'utopie, nous avons besoin de l'utopie dans sa fonction de contestation, de projection dans un ailleurs radical, et de sa fonction de critique des idéologies. Mais la réciproque est vraie, pour guérir l'utopie en quelque sorte de ses excès possibles, eh bien il faut faire appel à la fonction, non pas pathologique, mais saine, de l'idéologie. Sa capacité, donc, encore une fois, de donner à une communauté une identité. Et, à partir de là, Ricoeur insiste sur la dialectique entre idéologie et utopie, ou en tout cas, la fonction qu'elles remplissent toutes les deux dans l'établissement d'un imaginaire, ce qu'il appelle un imaginaire social. L'utopie n'est possible que sur fond d'une identité collective, qui est déjà conquise, une idéologie. Elle n'est donc possible que sur fond d'une certaine tradition, finalement. L'utopie ne surgit pas de nulle part. Elle n'est possible que sur fond d'une certaine continuité. Elle ne peut, en quelque sorte, exercer sa force de discontinuité que sur fond d'une trame déjà constituée. Mais cette tradition peut être sujette à des reprises, de nouvelles interprétations, des écarts, précisément grâce aux utopies. Donc nous avons besoin d'utopie, nous dit Ricoeur. C'est ce qui permet à toute société de ne pas se réifier dans le présent, d'accueillir le changement en vue de l'émancipation. Et Ricoeur va jusqu'à avancer cette idée que l'utopie serait en quelque sorte métaphorique. Si on ne peut se passer d'utopie, c'est peut-être d'abord parce qu'on ne peut se passer de métaphore pour décrire aussi notre réalité. Alors, ces éléments étant rappelés à propos de Ricoeur, je voudrais, dans la deuxième partie de mon exposé, insister sur l'auteur dont s'est inspiré Ricoeur pour élaborer son travail, même si Ricoeur prend un certain nombre de distances critiques à l'égard de cet auteur. Cet auteur, ce penseur, donc, est Karl Mannheim, qui est l'auteur, donc, Karl Mannheim, d'abord sociologue, avant d'être philosophe, sociologue hongrois, qui publie donc un ouvrage qui est devenu un peu un classique aujourd'hui, Idéologie et Utopie, un ouvrage qui est publié pour la première fois en 1929, qui sera traduit en français une première fois partiellement en 1956 et dont la traduction complète, intégrale en français, ne date que de 2006. Alors, les thèses qui sont développées par Mannheim à propos de l'utopie sont parfois un petit peu problématiques, comme Ricoeur l'a bien montré. Mais il me semble que cela ne doit pas dissimuler tous les aspects intéressants de sa démarche. Et c'est donc là-dessus que je vais essayer d'insister dans la fin de mon exposé. Alors deux aspects me semblent-ils intéressants que j'annonce déjà de la démarche de Mannheim. D'abord, il permet vraiment d'insister sur cette dialectique extrêmement serrée qu'il y aurait entre l'utopie et l'idéologie. C'est un premier aspect sur lequel je vais revenir. Mais ce qui est assez passionnant aussi, c'est que dans son travail, eh bien, il a cherché à envisager, à construire une typologie de différents types d'utopie. Donc, selon lui, on peut distinguer différentes formes d'utopie qui sont apparues à travers l'histoire, mais qui peuvent coexister les unes avec les autres, qui peuvent rentrer en conflit aussi, on va le voir. Donc deux aspects, me semble-t-il, intéressants de son travail, dialectique, utopie-idéologie, et cette typologie des différentes consciences utopiques. Alors, comment Mannheim définit-il l'utopie? Eh bien, l'utopie, comme Ricoeur va le reprendre d'une certaine façon, l'utopie est essentiellement pour lui contestatrice. L'utopie, c'est un type de conscience, hein, puisqu'il parle de conscience utopique. L'utopie, c'est une conscience qui ne coïncide pas avec la réalité effective. Et quand il parle de réalité, quand Mannheim parle de réalité, il entend la réalité socio-historique. Donc, une configuration très concrète de l'être social à un moment historique donné. Donc, l'utopie, c'est une conscience qui ne coïncide pas, donc qui, en quelque sorte, transcende la réalité effective. Mais ce qui est intéressant, c'est que, jusque-là, la définition pour l'idéologie est la même. L'idéologie elle-même ne coïncide pas avec la réalité effective. Donc, l'idéologie elle-même est une conscience qui transcende, en quelque sorte, la réalité effective, qui est hors réalité. Et donc, pour avoir les caractéristiques de l'utopie, il faut un élément de plus, et cet élément de plus, nous dit Mannheim, c'est que l'utopie est certes une orientation, est une conscience qui transcende la réalité, mais, et je le cite ici, qui au moment du passage à l'agir, détruit partiellement ou entièrement le régime ontique du moment. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, c'est que une conscience pour être utopique, une représentation pour être utopique, doit en quelque sorte, en partie au moins, transformer la réalité. Là où l'idéologie, même si elle est en décalage par rapport à la réalité effective, cherche d'une certaine façon à la conforter. Donc vous voyez que pour Mannheim, c'est une question de temporalité ici. L'utopie et l'idéologie sont toutes deux en décalage avec quelque chose comme une réalité effective. Alors c'est un des reproches que fait Ricoeur à Mannheim, c'est que serait une réalité effective indépendante de la possibilité de l'approcher à travers l'utopie ou l'idéologie. Je laisse cette question-là de côté. Mais donc c'est une question de temps. L'utopie et l'idéologie sont toutes deux en décalage temporel. L'une est en quelque sorte un peu en avance, ou l'autre semble un petit peu en retard par rapport à cette réalité effective. Et donc, il nous dit, je vous mets une première citation, pour exprimer cette idée que l'idéologie est elle-même en décalage par rapport à la réalité effective. Il écrit notamment ceci: « Au fil de l'histoire, l'homme s'est bien plus souvent réglé sur des facteurs de transcendance que d'immanence à l'être, donc jusque-là ça peut être de l'utopie ou de l'idéologie, et n'en a pas moins réalisé des régimes de vie, parfaitement concrets à raison d'une telle conscience idéologique désaccordée à l'être. » Donc le plus souvent, certes, l'homme se règle sur des facteurs transcendants plutôt qu'immanents à l'être, mais en plus, il est plus spontanément, nous dit-il, si on suit bien la citation, du côté de l'idéologie, une telle conscience idéologique, dit-il, désaccordée à l'être. Alors il propose à cet égard un exemple particulier. Au Moyen-Âge, nous dit-il, aussi longtemps que l'Église réussit à reléguer ses promesses de salut dans un lieu transcendant l'histoire, donc loin de son enclave dans la société, ici et maintenant, eh bien, son idéologie religieuse, dit-il, participait de l'ordre établi. Et ce n'est que lorsque certains groupes humains vont intégrer cette visée d'un au-delà à leur agir et vont s'efforcer de le mettre en œuvre ici-bas que l'idéologie va devenir proprement, dans ce cas-ci, une utopie. Alors je vais y revenir tout à l'heure, puisque ce qu'il vise ici, c'est un type de conscience utopique particulier, ce qu'il appelle la conscience kyliastique. Alors comment néanmoins donc distinguer de façon quelque peu assurée, de façon plus précise, idéologie et utopie? Eh bien, c'est précisément dans ce contexte que Mannheim mobilise un critère qui pourrait apparaître problématique à certains égards, il ne l'est pas complètement, c'est celui de la mise en œuvre, de la mise en œuvre effective de l'utopie, ou ce que je disais tout à l'heure, le terme que n'emploie pas Mannheim, la réalisabilité de l'utopie. Alors, vous voyez évidemment comment un tel critère, celui de la mise en œuvre de l'utopie, vous voyez comment un tel critère, évidemment, ne peut intervenir que rétrospectivement. Ce n'est qu'après coup qu'on peut se rendre compte si une représentation a effectivement été mise en œuvre et transformé quelque chose de la réalité. Manet nous dit en effet que, au présent, il est extrêmement difficile de discriminer ce qui est authentique utopie, c'est-à-dire ce qui va transformer en partie la réalité, de la simple idéologie qui ne fait que conforter cette réalité. À nouveau une petite citation qui illustre cette idée. Manet écrit ceci, donc il y a un critère assez fiable pour les départager, l'idéologie et l'utopie, c'est celui de la mise en œuvre. Des idées dont il est apparu après coup qu'elles planaient comme autant de simples représentations écrans au-dessus d'un régime de vie passé ou montant en puissance, eh bien c'était des idéologies. Ce qui parmi elles, dans le régime qui lui aura succédé, devient réalisable en bonne adéquation, c'était une utopie relative. Et donc, il y a une distinction qui travaille le texte de Mannheim entre ce qu'il appelle utopie absolue et utopie relative. Utopie absolue qui n'est pas réellement une utopie au sens où il l'entend, c'est une utopie qui n'aura jamais d'effet sur le réel. L'utopie relative, c'est l'utopie qui va en partie être réalisée. Donc, ce qui parmi elles, je redis la fin, ce qui parmi elles, dans le régime qui lui aura succédé, devient réalisable en bonne adéquation, c'était une utopie relative. Donc, en d'autres termes, la condition nécessaire pour qu'une représentation puisse être considérée comme utopique, c'est donc l'exigence d'une transformation de la réalité, certes, et ça je pense qu'on peut retenir cette idée, mais en outre, et les deux idées ne me semblent pas être exactement les mêmes, mais en outre, il faut qu'il y ait en quelque sorte une mise en accord de la réalité avec cette représentation. Ou à tout le moins, il faut que cette représentation ait la capacité de transformer la réalité qui dès lors va s'accorder suffisamment en bonne adéquation, dit Mannheim, va s'accorder suffisamment avec les idéaux qui sont visés. Alors, je vais pas vous assommer par des détails techniques. Cette définition, cette citation pose, me semble-t-il, un certain nombre de questions. On pourrait d'abord s'interroger sur la conception finalement très classique de la vérité comme adéquation, comme bonne adéquation, qui est sous-jacente à une telle conception. Et, me semble-t-il, un tel critère apparaît même rétrospectivement particulièrement difficile à détecter. Il me semble aussi qu'est problématique ici, ou en tout cas, il me semble que cette définition présuppose en tout cas la possibilité d'avoir une conception claire du contenu qui est visé par telle ou telle utopie. Donc, il me semble qu'une telle définition présuppose que l'on ait des représentations claires, des représentations qui seront éventuellement dites utopies relatives. Cette idée ne me semble pas aller de soi, et on va le voir, même, me semble-t-il, pour Mannheim, comme on va le voir quand je vais aborder sa typologie des différents types d'utopie. Mais ces difficultés, comme je l'annonçais, ne doivent pas dissimuler les aspects les plus intéressants de l'analyse de Mannheim. Et tout d'abord, je le disais, la dialectique particulière qu'il décrit comme étant à l'œuvre entre l'idéologie et l'utopie. Mannheim, en effet, de façon particulièrement intéressante, nous indique que dans le processus historique, les catégories de l'utopique et de l'idéologique ne sont pas des catégories étanches. Les utopies sont souvent largement contaminées, dit-il, d'éléments idéologiques. Ainsi, par exemple, l'idée bourgeoise de liberté était utopique, et je vais y revenir dans la typologie que je vais aborder dans un instant, sur cette idée bourgeoise de liberté, mais donc l'idée bourgeoise de liberté était utopique, nous dit Mannheim, puisqu'elle a transformé un état antérieur de la réalité et elle s'est imposée en partie. Mais, ajoute Mannheim, maintenant que cette utopie est en partie devenue réalité, nous voyons que cette idée de liberté contenait des éléments certes utopiques, mais aussi idéologiques. Puisqu'en effet, montre-t-il, dès que la bourgeoisie a compris que cette idée de liberté avait des implications aussi concernant une autre notion, celle d'égalité, une extension évidemment que la bourgeoisie refusait, eh bien, elle se fit en quelque sorte idéologique, c'est-à-dire défendant l'ordre social existant, refusant cette extension de la liberté à l'égalité, qui elle, par contre, l'idée d'égalité, va être récupérée, va devenir utopique, en étant remobilisée par une autre couche sociale. Bref, l'utopie bourgeoise, à tout le moins l'idée de liberté, telle qu'elle est convoquée par cette conscience bourgeoise, n'était pas si utopique que cela, nous dit Mannheim. Elle contenait aussi des éléments conservateurs qui ont contribué à freiner le mouvement d'émancipation. Alors l'aspect intéressant, me semble-t-il, ici, c'est de montrer d'abord, qu'il n'y a sans doute pas d'utopie qui ne soit contaminée par des éléments idéologiques. Mais ce que montre aussi Mannheim, et ça va se vérifier dans un instant, je vais essayer de vous le montrer, ce que montre aussi Mannheim, c'est qu'il n'y a peut-être pas, alors c'est un peu plus difficile, mais il n'y a peut-être pas d'idéologie qui ne convoque aussi, c'est un peu paradoxal, mais l'utopie est paradoxale, il n'y a sans doute pas d'idéologie qui ne convoque à certains moments des éléments proprement utopiques. Et donc, Mannheim se réfère explicitement ici à la notion de dialectique pour montrer que des utopies sont engendrées, elles transforment la réalité effective, mais jusqu'à aller ou jusqu'à atteindre la possibilité de leur réversibilité en idéologie. C'est ce qui lui fait écrire, reprenant une formule de Lamartine, « Il se peut que les utopies d'aujourd'hui soient les réalités de demain. » Alors voilà, j'ai décrit cette fameuse dialectique serrée entre idéologie et utopie. Je voudrais pour terminer maintenant aborder sans doute l'aspect le plus intéressant de la perspective défendue par Mannheim, c'est cette fameuse typologie des différentes consciences utopiques qui seraient apparues au cours de l'histoire. Alors, cette typologie, me semble-t-il, est particulièrement intéressante, et non pas, évidemment, encore une fois, à être lue à partir de cette idée de la mise en œuvre, qui me semble problématique chez Mannheim, mais à être lu plutôt comme décrivant finalement différents types d'utopie, comme différents types de virtualité qui peuvent affecter notre présent, qui dès lors articulent l'expérience de la temporalité, mais peuvent donner sens aussi à l'action. Et Mannheim nous met d'ailleurs sur cette piste, avant d'entamer cette longue description des différents types de conscience utopique, il a cette formule qui est assez claire, assez probante. Nulle part on ne peut saisir la structure intime d'une conscience aussi clairement qu'en comprenant son image du temps à partir de ses attentes, de ses désirs et des fins qu'elle se donne. Comment un groupe concret, comment une couche sociale articule le temps historique, cela dépend de son utopie. Alors qu'en est-il plus précisément? Eh bien, Mannheim va distinguer quatre types de conscience utopique. Quatre types de conscience utopique qui, de façon très intéressante, sont toutes travaillées par différents paradoxes. La première figure de la conscience utopique isolée par Mannheim, au début du XVIe siècle, c'est ce qu'il appelle le chiliasme orgiastique des anabaptistes. Et cette conscience utopique, donc cette conscience chiliastique, apparaît, nous dit-il, comme une césure, une rupture, une discontinuité dans le flux de l'histoire. C'est cette conscience utopique qui, pour Mannheim, inaugure la modernité. le mouvement religieux, il s'appuie ici hein, sur le mouvement religieux initié par Thomas Müntzer, apparaît, nous dit-il, comme le coup d'envoi de la modernité politique, comme le coup d'envoi aussi des révolutions au sens moderne. Alors le premier aspect important à mettre en évidence pour caractériser cette utopie, premier paradoxe, c'est que c'est une utopie qui ne contient pas d'idées. Est-ce encore une utopie? Donc la conscience kidiastique, nous dit Mannheim, au cœur de la conscience kidiastique, ce ne sont pas les idées qui la mettent en mouvement. Je vous ai mis une citation qui illustre cela. Hein. Donc ce ne sont pas des idées qui poussèrent les hommes à la révolution, ce sont des énergies extatiques et orgiastiques qui déclenchèrent la véritable éruption. Donc en d'autres termes, ce qui va amener ces hommes, hein, ces damnés de la terre, à se révolter, donc Mannheim, avec Thomas Müntzer, fait allusion, enfin évoque l'épisode historique de la guerre des paysans allemands. Donc ce qui amena ces hommes à se révolter, ce furent moins des idées ou des principes théoriques, hein, qu'une force affective, une force pulsionnelle, donc le sentiment vécu de quelque chose d'insupportable qui les a amenés à vouloir transformer, renverser l'ordre établi, mais encore une fois, sans avoir sans doute une conscience très claire de ce qui devait en résulter. Hein. Quelque chose est insupportable, peu importe ce qui adviendra concrètement ensuite, hein, mais le sentiment, l'épreuve vécue en quelque sorte, de cet aspect insupportable est suffisant hein, pour engendrer le soulèvement. Alors de cette utopie dépourvue en partie, en tout cas, d'idées précises, de principes théoriques, découle une pratique révolutionnaire singulière. La révolution, dans ce cas-ci, n'est pas un moyen pour atteindre des objectifs, vous le voyez, précis, rationnellement définis, mais la révolution, c'est le principe créateur de présence immédiate. Hein. Il faut une rupture immédiate, une irruption hein, dans le monde tel qu'il est. Donc vous voyez comment l'utopie kidiastique apparaît comme une figure limite hein, de l'utopie, sans contenu idéal explicite, son mode de non-congruence à la réalité vise à transformer l'ordre existant, mais à partir d'un vécu immédiat. Alors, il n'est pas inintéressant de regarder la structure temporelle, hein, c'est là-dessus que je voudrais insister pour ces quatre types de conscience utopique, il n'est pas inintéressant de regarder la structure temporelle de la conscience kyliastique. La structure temporelle propre à la conscience kyliastique se caractérise par une visée, pourrait-on dire, immanente de la transcendance, hein, au sens où c'est l'expérience de la présence absolue d'un au-delà qui ouvre en quelque sorte une brèche révolutionnaire dans la réalité. Alors, c'est là qu'on peut lire la seconde citation que je vous ai mise sur ce slide. Hein. Pour le vécu absolu du kyliaste, l'instant présent devient la faille où ce qui avait d'abord été fort intérieur déborde dehors et intercepte soudain, en le modifiant, le monde extérieur. Donc vous voyez que l'au-delà qui est visé, alors un au-delà que je mets entre guillemets, puisqu'on a vu que précisément il n'était pas très clair cet au-delà hein, qui était visé, l'au-delà qui est visé par la conscience kyliastique ne renvoie pas du tout à une espèce de promesse d'avenir hein, éloignée, mais la conscience kyliastique vit l'imminence de sa venue hein, sous la forme d'une irruption soudaine. Donc ce qu'attend le kyliaste, c'est l'immédiatement à venir. Hein, Mannheim a cette expression, hein, finalement la conscience kyliastique est sur le qui-vive. Hein, elle est sur le qui-vive. C'est maintenant que les choses se passent, dans l'instant présent, ou plus rigoureusement, dans l'instant immédiatement à venir. Alors vous voyez comment, on ne se refait pas, hein, donc petite référence phénoménologique tout de même, vous voyez comment, en s'inspirant ici de la conceptualité husserlienne de la temporalité, on pourrait avancer cette idée mais que la conscience kyliastique se réduit à une structure protentionnelle. La conscience kyliastique ne se rapporte qu'à l'immédiatement à venir, sans se projeter au-delà, dans un avenir explicitement thématisé et réfléchi. La conscience est littéralement aux aguets, hein, constamment prête à effectuer le saut dans la Révolution. Alors ceci m'amène à la seconde, second type de conscience utopique, l'utopie que Mannheim appelle libérale humanitaire. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé en évoquant l'idée de liberté, hein, convoquée par la classe bourgeoise. La conscience utopique libérale humanitaire, eh bien, elle peut être comprise, selon Mannheim, à partir d'un épuisement de la conscience chiliastique, dont l'énergie révolutionnaire finit évidemment par s'épuiser, la révolution se faisant quelque peu attendre. Donc la bourgeoisie est une certaine intelligentsia, nous dit Mannheim, est la couche sociale, le groupe social qui va porter cette seconde conscience utopique. Alors ici, on a une structure très différente. L'avènement de la société idéale n'est plus du tout considéré comme devant arriver de façon imminente, mais au contraire, l'avènement de cet idéal est différé, reporté à une échéance indéfinie, donc dans un avenir plus ou moins lointain, qui n'adviendra sans doute jamais en tant que tel. Alors vous voyez que les conséquences sont assez intéressantes. D'abord, et pour une part paradoxalement, le fait de reporter de la sorte indéfiniment son avènement permet en fait de donner à l'idéal visé un contenu explicite qu'il n'avait pas dans la conscience chiliastique. Mais ensuite et surtout, cela permet d'envisager sa venue progressive et dès lors de se donner les moyens d'agir ici et maintenant. Certes, de façon très modeste, par rapport au contenu idéal qui est visé, mais néanmoins de façon très concrète. Donc vous voyez comment ces deux aspects sont en contraste très net avec la conscience chiliastique. L'utopie libérale, c'est paradoxalement le gage d'une forme d'efficacité au présent, parce qu'est reportée à l'infini la pleine réalisation du contenu visé. Et vous voyez comment, depuis un tel point de vue, l'utopie chiliastique apparaît profondément inefficace, abstraite, puisqu'elle se confronte à l'impossible, pensant de façon un peu délirante, en tout cas du point de vue libéral, que peut advenir ici et maintenant un renversement complet de l'ordre établi. Donc ici, avec l'utopie libérale humanitaire, l'idée se fait norme, agissant au présent. Pour la conscience libérale, au contraire de la conscience chiliastique, ce sont les idées, les idéaux qui font agir les hommes. Alors la structure temporelle apparaît évidemment bien différente par rapport à celle de la conscience chiliastique. La conscience chiliastique se projette dans l'immédiatement à venir, persuadée qu'une transcendance radicale va déchirer la trame temporelle, mais par là même elle se rend insensible à la dynamique de l'histoire. Elle ne connaît que l'instant brut, la conscience chiliastique, l'absolu maintenant. Le maintenant de la parousie du sens, écrit Mannheim. Il n'y a donc pour elle aucune évolution, aucune durée, aucun cheminement. Pour la conscience libérale, au contraire, contraste très net, l'idée n'est plus dans une position de radicale transcendance par rapport à la réalité, mais elle est placée dans son prolongement. Certes, lointain, sans doute inaccessible, mais dans son prolongement. Donc tout se passe comme si cette idée était rapprochée du réel. Et donc par là même, nous dit Mannheim, est temporalisé ici le désir du changement. De la sorte, on pourrait avancer, Mannheim ne le dit pas explicitement, on pourrait avancer cette idée que l'utopie libérale est caractérisée par une présence virtuelle de l'idée à venir. Présence virtuelle, dont n'est pas d'abord essentielle la réalisation effective et adéquate, en bonne adéquation, nous disait Mannheim, de l'idéal visé, mais présence virtuelle qui est intéressante en ce sens qu'elle nous fait agir ici et maintenant. Alors, la troisième forme de conscience utopique est sans doute encore plus paradoxale. Vous me dites, Henri, quand je dois trouver un chemin de conclusion. Donc la troisième forme de conscience utopique, c'est l'utopie conservatrice, qui, comme je vous le disais, apparaît plus paradoxale encore que les autres formes d'utopie, puisque l'esprit utopique est ici orienté dans le sens d'un conservatisme. Hein, il faut se demander dans quelle mesure ce n'est pas contradictoire, une nouvelle fois, avec la définition même de l'utopie. Je vais revenir sur cette question. Mais donc, pour la décrire, on pourrait dire que la conscience conservatrice, eh bien, elle est elle-même engendrée, comme l'était la conscience libérale à l'égard de la conscience kéliastique, la conscience conservatrice, elle est elle-même engendrée à partir d'une critique de la conscience libérale. Les idéaux libéraux seraient devenus, aux yeux des conservateurs en tout cas, de plus en plus formels et vides, et donc d'une certaine façon abstraits et inefficaces. Cette conscience conservatrice va donc élaborer une contre-utopie qui, au contraire de l'utopie libérale, qui affirmait la valeur de l'avenir, va affirmer la valeur du passé. Une contre-utopie qui va affirmer la valeur du passé, la valeur des traditions, pour contrer ce qui lui apparaît comme une fuite en avant de la conscience libérale. Et cela va passer par une mise en avant d'une forme de nécessitarisme historique, en lieu et place du rationalisme éclairé des libéraux. Alors, à nouveau, évidemment, cette figure de l'utopie apparaît extrêmement limite. Hein. D'abord, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, d'abord parce que, initialement, la conscience conservatrice, nous dit Mannheim, ne produit pas d'idées. Initialement, la conscience conservatrice a un rapport non problématique avec la réalité effective. Et ce n'est que parce qu'elle est confrontée à des classes contestataires, et d'abord la partie contestataire de la classe bourgeoise, et donc leur propension, la propension de ces classes contestataires à vouloir changer l'ordre existant, que la maîtrise qu'a la conscience conservatrice de la réalité va devenir problématique. Donc, c'est à partir de là seulement, nous dit Mannheim, que la conscience conservatrice est amenée, dans une position d'une certaine réflexivité, qu'elle est amenée à produire des idées, hein, à produire donc une contre-utopie qui va être opposée à la conscience libérale. Donc, avec la conscience conservatrice, l'utopie, donc l'idée, est en quelque sorte devenue concrète. Hein. On a vu comment déjà l'idée se rapprochait de la réalité avec, paradoxalement, avec l'utopie libérale humanitaire. C'est encore plus le cas, d'une certaine façon, avec la conscience conservatrice. Puisque, avec l'idée conservatrice, l'utopie est en quelque sorte par avance immergée dans l'être. Hein. Même si, évidemment, cette forme d'immanentisation historique ne signifie pas encore complètement la disparition de l'utopie, hein, comme je vous l'expliquais, puisqu'il y a bien quelque chose comme une distance, une différenciation par rapport à la réalité effective. Alors la structure temporelle apparaît cette fois comme l'exact opposé de celle qui était à l'œuvre dans la conscience libérale, puisqu'ici, c'est le passé qui est mobilisé, qui engendre des valeurs, c'est le déterminisme historique, comme je le disais, qui est mis en avant, et qui s'accompagne d'une sensibilité accrue à l'égard du processus organique, dit Mannheim, des formes historiques concrètes. C'est ce qui lui fait écrire, hein. Tout n'est pas possible à tout moment et dans toute communauté historique. On ne peut pas fabriquer telle ou telle forme historique. Celle-ci croît, pareil à la plante, à partir de son propre foyer. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu, hein, parce que je vois que le temps passe. Oui, alors voilà, il y aurait plusieurs questions évidemment qui pourraient être posées à cette conscience utopique conservatrice, puisque l'utopie a été définie précisément par Mannheim comme une représentation transcendant la réalité, certes, mais animée également par la volonté de transformer cette réalité. Or, est-ce que l'utopie conservatrice ne vise pas au statu quo, hein ? N'a-t-elle pas dès lors plutôt les caractéristiques de l'idéologie? Qu'est-ce qui en fait une utopie? Pourquoi peut-on parler ici d'utopie? Eh bien, pour s'en sortir, je pense qu'il faut convoquer ici la dialectique extrêmement serrée entre idéologie et utopie, dont je parlais tout à l'heure, et que décrit Mannheim. Il semble en tout cas que dans le cas de l'utopie conservatrice, de l'idée conservatrice, la dialectique entre l'idéologie et utopie soit particulièrement serrée. Idéologie et utopie semblent en fait au plus proche, hein, voire même constamment en train de basculer l'une dans l'autre. Dans l'idéologie, lorsqu'on est dans la simple préservation du statu quo, dans l'utopie, lorsqu'il s'agit de transformer une réalité qui n'est plus complètement en phase avec son passé, qui n'est plus complètement en phase avec le sens de la nécessité historique. Alors ceci m'amène, et je me dirige vers la fin de mon exposé, à la quatrième figure de la conscience utopique, l'utopie socialiste-communiste, qui, elle aussi, hein, comme les trois autres, cultive les paradoxes. Peut-être d'abord parce qu'elle prétend ne pas être une utopie. Alors Mannheim nous montre qu'elle apparaît comme une espèce de synthèse des trois utopies précédentes. Elle apparaît, nous dit-il, d'abord comme une reprise progressiste de la conscience conservatrice. C'est une première citation que je vous ai mis là. Hein, c'est une récupération d'un genre particulier de la conscience conservatrice, du conditionné par l'utopie progressiste, celle qui veut changer le monde. Donc, à l'instar du conservatisme, le socialisme-communisme a conscience en quelque sorte des déterminismes historiques, mais là évidemment où le conservateur s'appuyait sur ce poids du conditionné historique pour légitimer le statu quo, la conscience socialiste-communiste décrypte dans ce conditionné, évidemment, les facteurs qui vont pouvoir engendrer le changement. Et donc, c'est ce qui la rapproche, évidemment, cette utopie sociale communiste, de l'utopie libérale humanitaire. Mais l'utopie socialiste communiste cultive aussi un certain sens de la conscience kyliastique. Alors, certes, évidemment, elle critique cette idée qu'une brèche pourrait survenir dans la trame de la temporalité historique, à tout moment, hein, indépendamment des conditions historiques. Et en cela, Mannheim montre comment l'anarchisme au XIXe siècle est en quelque sorte une espèce de transformation de la conscience kyliastique. Hein. Donc, certes, il y a cette critique de l'irruption soudaine et inopinée possible, mais néanmoins, elle mobilise une certaine idée de la révolution. Et on peut lire la seconde citation que je vous ai mis là. Ce n'est qu'à la fin du procès que l'idée est maintenant dans son inconditionnalité et dans son indéterminité riche d'une promesse, mais la voie qui mène l'être à la parousie du sens, caractéristique de la conscience kyliastique, hein, est déjà différenciée historiquement et socialement. Donc vous voyez comment la rupture révolutionnaire adviendra le moment venu, en quelque sorte, hein, dans le sens de l'histoire. Alors voilà, cette conscience, évidemment, cette utopie socialiste-communiste, apparaît au niveau de sa structure temporelle comme une espèce de synthèse des trois précédentes, hein. Ce n'est pas simplement le passé qui est virtuellement présent, ce n'est pas simplement l'avenir qui est virtuellement présent ici, mais les deux. Hein. Le passé et l'avenir sont virtuellement présents. C'est une synthèse entre la conscience conservatrice, la conscience libérale humanitaire, et on l'a vu, la conscience kyliastique. Alors vraiment, je termine, hein, je passe un certain nombre de développements, je termine en posant deux questions, je me limite à deux questions par rapport à cette typologie assez stimulante, me semble-t-il, qui est décrite par Mannheim. D'abord, évidemment, on pourrait se demander dans quelle mesure on ne pourrait pas imaginer d'autres formes de conscience utopique. Hein. Mannheim nous en a décrit quatre, dans quelle mesure ne pourrait-on pas en envisager d'autres? Alors demain matin, dans le séminaire de doctorants, je parlerai de Walter Benjamin, du philosophe de l'écrivain Walter Benjamin, je pense qu'à partir de sa pensée, eh bien, on pourrait dégager un cinquième type de rapport au futur et au passé. Un autre sens de la discontinuité, qui n'est plus le sens de la discontinuité de la conscience kyliastique, même si elle en a de nombreux, elle en reprend de nombreux traits, mais elle s'en différencie en ce sens que chez Benjamin, il y aurait un certain rapport au passé, Alors, un rapport au passé qui n'est plus le passé des conservateurs, hein, mais un passé qui est entendu, évidemment, comme renvoyant à l'oppression, hein, à l'histoire de l'oppression, et donc un passé qui échappe à ce que Benjamin appelle le grand récit continuiste des vainqueurs. Donc, Benjamin essaie de nous montrer que c'est du passé que surgit la force de la transformation, en quelque sorte, de l'ordre établi. Donc ce serait, je rentre pas dans les détails, mais ce serait, je peux y revenir dans la discussion, ce serait finalement peut-être un cinquième type d'utopie. L'autre question que l'on pourrait se poser concerne le statut de cet enchaînement, hein, de différents types d'utopie. Enchaînement qui semble conduire à un certain épuisement de l'utopie, puisque dans le passage d'une utopie à l'autre, l'idée se rapproche constamment de la réalité effective. Et dans la perspective de Mannheim, ça signifie, évidemment, si l'histoire, s'il n'y a processus historique que dans la dialectique entre l'idéologie et l'utopie, cela signifie, dans la perspective de Mannheim, une stagnation, en quelque sorte, de l'histoire. Alors, Mannheim n'est pas très clair à cet égard, mais c'est ce qu'il semble sous-entendre, hein, à la fin de son texte, puisqu'il prend, le sociologue ici, prend parti pour l'utopie, hein, au nom de la volonté d'histoire. Il insiste donc sur l'importance que l'utopie, que des utopies, continuent à travailler la réalité effective en tant que virtualité permettant de la transformer. Voilà, alors le titre de mon exposé, pour terminer là-dessus, le titre de mon exposé était « L'utopie future et ou impossible ». Alors, je m'inspirais en... Du titre que Miguel Abinsour, hein, grand penseur de l'utopie, avait donné lui-même à un article qu'il avait rédigé sur ce sujet, qui était « Utopie, futur et ou altérité ». Et il y montrait de façon assez intéressante qu'il ne faut sans doute pas d'abord concevoir l'utopie comme une marche en avant vers ce qui doit être, comme une marche en avant vers une nouvelle positivité. Et donc, plutôt que d'assigner l'utopie au futur, il convient, selon lui, de privilégier sa dimension d'altérité affectant le présent. Ou plus précisément, plutôt que d'une simple alternative, futur ou altérité, c'est en privilégiant l'altérité, nous dit Abinsour, qu'on se donne les moyens d'une pensée authentique du futur. Alors voilà, hein, c'est un peu cette piste-là que j'ai tenté modestement et de façon un peu plus précipitée sur la fin d'explorer dans mon exposé. Je vous remercie.
Voilà, merci Sébastien sur ces questions qui sont des questions difficiles et pleines d'enjeux d'avoir mené cette réflexion, cette clarification et cet effort d'articulation de notions dont on voit spécialement à travers les quatre types de temporalité et de relations à quel point elles sont complexes et subtiles. Voilà, nous avons un temps maintenant de discussion. Je crois qu'il n'y a pas de micro qui puisse circuler, mais nous ferons sans. Alors la parole est à vous.
Désolé, je vous ai peut-être un petit peu assommé. Non, je vous laisse reprendre vos esprits.
Il faut le temps de reprendre souffle et ça va venir très vite.
Qui n'est pas évidente. Alors, on peut essayer d'y répondre de différentes façons. Première façon d'y répondre, à partir de Mannheim, on pourrait dire, tiens, est-ce qu'on n'est pas plutôt aujourd'hui confronté à ce type d'utopie tout à fait paradoxale, qui est plutôt l'utopie conservatrice, l'utopie conservatrice, finalement, qui nous installe dans une forme de nécessitarisme, qui nous montre qu'il y a une façon d'agir, une seule bonne façon d'agir,
pour retrouver un peu de croissance, pour etc., etc. Il y a une seule façon d'agir. Et donc, utopie conservatrice, en ce sens que c'est utopie tout à fait paradoxale, où quand la réalité commence à être un peu trop en décalage par rapport à son idée, il s'agit de créer cette contre-utopie pour tenter de ramener les choses. Bon. Donc ça, c'est une première façon dont on pourrait répondre, essayer de répondre à partir de Manet. Hein. Maintenant, l'hypothèse que j'ai tenté de défendre, c'est que oui, je pense que l'utopie est un concept intéressant, hein, à remobiliser, pas dans le sens de l'utopie conservatrice, hein, mais dans son versant positif et émancipateur. Mais ce sur quoi j'ai insisté aussi, c'est que c'est une notion qui nous amène constamment à être vigilants aussi, hein, avec le travers possible, hein, de penser que des lendemains enchantés pourraient advenir en bonne adéquation, pour reprendre l'exemple, enfin la formule de Mannheim. Donc je pense que l'utopie elle est intéressante comme force critique, mais dans une forme de discontinuité. Donc je pense qu'on peut identifier peut-être aujourd'hui parfois certaines pratiques qui pourraient être dites utopiques, hein, des pratiques concrètes, hein, certains soulèvements, certains mouvements citoyens, etc., pourraient être dites utopiques. Alors on va dire, ben, vous voyez que c'est complètement utopique, en effet, parce que ça ne dure pas, hein, c'est tout à fait éphémère. Ça n'a pas duré, vous voyez bien que c'était utopique. Mais justement, je pense que il faut pas évaluer l'aspect intéressant de ces expériences en termes de durabilité, puisque l'utopie n'a sans doute pas de durée en elle-même. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la force de rupture de certaines pratiques. Hein. Soudainement, elles viennent, comme je le disais en commençant, en quelque sorte, insuffler du possible, hein, recréer de l'écart. D'autres choses sont possibles. Et rien que cette dimension de contestation, même si ça se referme, perdure d'une certaine façon. Hein. Ce sont des choses auxquelles on va pouvoir continuer à se référer. Vous savez que nous avons fait ceci, nous avons. Donc moi, je pense, oui, qu'il y a une force possible de l'utopie en ce sens-là. Mais je pense qu'il faut cesser comme on l'entend très souvent, hein, d'évaluer certaines pratiques en termes de durée. Hein. Voilà les quelques éléments de réponse. Et il faut reconnaître, et c'est un élément qui me permet de compléter ma réponse à la première question. Il faut reconnaître aujourd'hui que ce sont plutôt en général les dystopies, hein, qui ont le vent en poupe, hein, dans la littérature, au cinéma. Il y a plutôt une tendance dystopique qu'utopique. Hein. Alors c'est intéressant parce que je trouve qu'une question qu'il faut se poser quand on mobilise l'utopie, enfin quand on travailler avec l'utopie, c'est est-ce que c'est un concept mobilisant, enfin, est-ce que c'est un concept qui peut faire agir? Et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est peut-être la dystopie qui fait plus agir. Hein. C'est-à-dire que face à la crise écologique, notamment, enfin, on a l'impression que c'est plutôt l'image de la catastrophe dans laquelle nous sommes déjà d'ailleurs en partie, mais du pire qui va advenir, qui pourrait, en quelque sorte, nous faire agir. Hein. Voilà, j'ai l'impression qu'on a plutôt tendance, hein, à privilégier. Enfin, il y a peut-être une certaine tendance à privilégier les discours dystopiques qu'utopiques. Donc voilà, comment je répondrai à votre question. Alors oui, j'avoue, je suis pas un spécialiste de la littérature ni utopique ni dystopique au niveau des contenus précis, mais oui, je pense qu'on pourrait, évidemment retrouver certains grands textes et essayer de montrer comment. Comment il s'inscrirait ou pas dans la typologie de Mannheim, donc comment il s'installerait dans les différentes figures paradoxales de l'utopie. Alors, il faut reconnaître que le texte de mort est sans doute celui qui se prête le mieux à la lecture que j'ai faite tout à l'heure, hein, et donc cette double dimension critique, hein, que j'ai essayé de montrer à l'œuvre chez mort. Hein. Donc tout à la fois ce dispositif qui permet très explicitement de critiquer l'Angleterre de son temps, hein, mais qui aussi n'est pas naïf, et donc est bien conscient que ce royaume utopique qui est décrit dans la seconde partie de l'ouvrage n'est pas quelque chose à appliquer tel quel. Hein. Et donc ce dispositif doublement critique, hein, qu'on peut voir à l'œuvre dans l'utopie de mort, ben on le retrouve sans doute, enfin on le retrouve pas toujours avec une même clarté dans d'autres utopies littéraires. Et c'est bien ce que je vous disais, c'est que l'utopie, c'est bon, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que chez mort, c'est particulièrement clair. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais il y a tout un tas de petits indices, hein, qui permettent constamment au lecteur de se dire, oui, mais attendez, c'est très bien ce qui est proposé, mais bon. Hein. Alors ça va de la personne, du navigateur qui raconte l'histoire, hein, Raphaël Claudet, hein, dont l'étymologie renvoie au raconteur, au diseur de sornettes. Hein. Donc celui qui nous raconte l'histoire, c'est celui qui nous raconte des balivernes, en quelque sorte, hein, déjà premier élément. Et puis à la lecture, évidemment, du livre, il y a tout un tas d'éléments négatifs, hein, qui permettent de constamment installer une forme d'ambiguïté par rapport aux intentions qui sont celles de mort. Hein. Alors c'est vrai que on retrouve sans doute difficilement, et d'ailleurs assez proche de mort chez Campanella, on retrouve très difficilement cette belle architecture critique, hein. Mais néanmoins, voilà, je pense qu'on pourrait la retrouver. Je pense à Fourier, par exemple, l'humour qui fait partie aussi de bon, y a sans doute quelque chose de cet ordre-là qui pourrait être retrouvé. Alors les dystopies, elles apparaissent plutôt à partir du 19e, hein, et se développent au 20e siècle, sans doute en partie en réaction, évidemment, à cette tendance à avoir voulu incarner des utopies. Hein. Le travail d'Orwell n'est pas sans avoir quelque chose, enfin, n'est pas sans rapport, évidemment, avec le communisme effectif, hein, l'expérience communiste, par exemple, hein, en tout cas avec les totalitarismes. Donc c'est aussi en réaction par rapport à ce que l'utopie, au versant négatif de l'utopie, comme j'essayais de vous le montrer, une fois que l'utopie n'a plus cette dimension critique à l'égard d'elle-même. Hein. Il y a un paradoxe tout de même très étonnant. Hein. Je crois qu'on pourrait défendre l'idée que une société sans utopie, c'est peut-être la plus belle définition du totalitarisme, hein. C'est une société où il n'y a plus d'ouverture au possible, et on pourrait peut-être montrer historiquement comment les différents totalitarismes se sont échafaudés en tentant de mettre à l'écart les tendances utopiques, hein, dans le corps social. Donc, une société sans utopie, c'est sans doute une société totalitaire, mais le paradoxe, c'est que une utopie réalisée, hein, fait le plein et empêche les autres tendances utopiques. Hein, donc on a là quelque chose d'intéressant, je pense, dans le concept d'utopie.
La société totalitaire est une société où la temporalité est niée. L'historicité, de façon, ouais, enfin, ouais. Tant le rapport au passé qu'à l'avenir.
Oui, ou en tout cas, il y a un rapport au passé mythique.
On est dans la répétition du même aussi. Enfin, oui. On est dans la...
oui.
Étienne Ganty.
Oui, merci pour cet exposé passionnant.
Je vais donner les éléments que donne Mannheim. Alors, il faudrait amender, nuancer. Mais selon Mannheim, d'abord, on parle de conscience utopique. D'abord, il se réclame très clairement de la démarche idéale typique de Weber. Hein. Donc, son idée, c'est que il s'agit bien d'idéal type. Donc, il est évident que la pureté théorique ne se retrouve, enfin, est toujours contaminée dans les faits. Mais surtout, ce sur quoi il insiste, c'est qu'on peut parler de conscience utopique à partir du moment, évidemment, où ça compte. Alors, mais c'est quoi ce moment-là, hein? Vous me direz, mais à partir du moment, évidemment, où elle concerne un groupe social. Un groupe social. Donc, c'est-à-dire que une conscience utopique ne peut pas concerner un individu, en d'autres termes. Alors, certes, c'est peut-être à l'initiative, hein, donc, une des réflexions sur le génie, etc., et d'ailleurs, le personnage de Münzer pourrait peut-être aller dans ce sens-là, hein, c'est parfois l'initiative d'un personnage. Bon. Mais son idée, c'est que il y a conscience utopique à partir du moment, évidemment, où ça affecte une collectivité, ça affecte une couche sociale qui va rentrer en conflit. Et donc, ce qui est très important aussi chez Mannheim, c'est cette idée de conflit, hein, sur laquelle je n'ai pas assez insisté sans doute. Au contraire de ce qu'on voit chez Ricoeur, je pense, l'idéologie et l'utopie n'ont pas une tâche fonctionnelle dans l'établissement d'un imaginaire social, mais chez Mannheim, l'idéologie et l'utopie, et les différents types d'utopie, concernent des imaginaires sociaux différents, qui rentrent en conflit les uns avec les autres. Hein. Donc ce sont des imaginaires sociaux différents qui rentrent en conflit. Hein. Donc il y a cette insistance sur l'aspect conflictuel. Ça ne lève pas évidemment toutes les questions sur comment surgit une utopie. Surtout, ça laisse la porte ouverte, hein, éventuellement la réflexion, comme j'essaie d'ouvrir la piste en évoquant Benjamin à la fin, sur d'autres types de conscience utopique qui ne seraient pas inintéressantes. Maintenant, je pense que là, on a déjà exploré pas mal de possibilités. Et donc, son idée, je pense, c'est parfois un peu dense. À Mannheim, il faut bien reconnaître que c'est parfois un peu dense, et parfois il est lui-même un peu ambigu. C'est pas très clair sur le statut de cette succession. Hein. On voit bien qu'une une première lecture un peu hégélienne, hein, serait de dire, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de synthèse qui s'opère, d'ailleurs le dernier type de conscience utopique apparaissant comme la synthèse des précédentes, hein. et comme une forme de disparition progressive de l'utopie. Hein. Ça, c'est aussi une thèse qu'on peut trouver chez Mannheim, cette idée qu'il y a un essoufflement historique de l'utopie, d'où la tâche du théoricien ou de l'historien de recréer des... Bon. Ça, c'est une première lecture possible, hein, une espèce de savoir absolu. Bon. Autre lecture possible, qui est aussi possible, c'est que ces différentes formes d'utopie ont certes émergé à des moments historiques de la modernité, à des moments précis de la modernité, mais il n'empêche qu'elles peuvent coexister. Hein, elles peuvent coexister une fois qu'elles sont apparues, et je pense que la description qu'il fait de l'anarchisme au XIXe siècle, ben c'est une résurgence, selon lui, de la conscience kyliastique. Hein. C'est une autre façon de donner un contenu, entre guillemets, puisque le contenu, dans le cas de la conscience kyliastique, selon lui, n'est pas précis, à la conscience kyliastique. Mais on pourrait se dire que la conscience kyliastique, on la trouve peut-être décrite, alors elle n'est pas évidente, mais on la trouve peut-être décrite d'autres façons. Alors je vais essayer de ne pas être trop long, mais je pense à un exemple, hein. C'est ce que Marx appelle dans le 18 Brumaire la théorie des paysans parcellaires. Hein. Il décrit le coup d'État de 1848 et c'est un moment qui a été analysé par Michel Henry dans son Marx où ça me semble très proche de la conscience kyliastique. Hein. Alors évidemment très proche d'Henry aussi, mais c'est l'idée que ce soulèvement des paysans s'est fait sans aucun horizon idéologique. C'est vraiment l'idée que ce n'est pas en quelque sorte un horizon idéologique qui a conditionné les individus et les a amenés à agir, mais il y avait dans la situation qu'ils vivaient, et paysans parcellaires, c'est cette idée qu'ils n'avaient pas de rapport concret, enfin ils avaient des rapports sans doute des échanges, mais pas de rapport plus que cela, donc pas de rapport organisé entre eux. Donc c'est qu'il y avait quelque chose dans la situation qui effectivement les a amenés à se soulever. Hein. Donc je pense à ça maintenant, mais ça pourrait être une autre façon de relire l'utopie kyliastique, hein. Une espèce de soulèvement lié à la conscience kyliastique.
Est-ce que les fondamentalismes et les intégrismes sous leurs diverses formes aujourd'hui seraient une variante de cette conscience kyliastique ? Je veux pas troubler le déroulé de l'argumentation là. Mais...
Non, mais c'est une très bonne question. Écoutez, je vous invite à y réfléchir tous. C'est une très bonne question. Alors évidemment, on pourrait, hein, penser que c'est une forme d'utopie. Alors dans Oui, alors c'est vrai qu'elle a quelque chose hein, de certainement de pulsionnel pour une part. Maintenant, est-ce qu'il faudrait pas penser aussi l'horizon idéologique qui la travaille hein. Mais j'avoue que là, je peux pas apporter plus d'éléments pour le moment.
Alors, par rapport aux questions d'Étienne Gonti, je sais pas.
Oui, alors, bah, écoutez, j'ai essayé discrètement d'éluder la première question. Vous m'y ramenez.
Mais vous avez droit à un joker.
Si j'ai droit à un joker. Non, j'avoue que comme ça, je vois pas trop comment répondre à la première question. Le rapport très concret entre ces différentes formes d'utopie et le politique, enfin, l'exercice du pouvoir, alors on voit en tout cas que dans la perspective de Mannheim, on ne peut pas penser l'utopie au pouvoir, ça c'est clair. Hein mais c'est une question qui n'aborde pas telle quelle. Et j'avoue que là comme ça, il me faudrait un peu temps de réflexion. Je suis un peu désolé de ne pas pouvoir... L'utopie a quand même toujours cette dimension de contestatrice. Qui fait qu'elle est quand même toujours d'une certaine façon remise en question d'une politique exercée très concrètement hein, avec cette idée qu'un groupe social portant une utopie arrivant au pouvoir n'est plus dans l'utopie pour Mannheim nécessairement, et c'est en cela que c'est intéressant aussi, c'est que l'impossibilité de la réalisation d'une utopie en bonne adéquation. Hein. Voilà comment je répondrais.
Parce que dans le troisième type de conscience, l'utopie conservatrice, c'est finalement plutôt la contestation que l'utopie au sens strict. Enfin, vous avez montré le rapport dialectique. Idéologie et utopie.
Oui, je dirais que il y a de l'utopie là. Oui, c'est vrai que là, il pourrait y avoir une utopie conservatrice liée à un pouvoir politique effectif. Puisque là, l'utopie surgit, se détache de l'idéologie dans ce cas-là, lorsque il s'agit de ramener dans le rang, de ramener à quelque chose... qui est en train de passer. Il s'agit de revenir à l'ordre établi en quelque sorte. Là où il est en train de voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Oui. Michel Fédou.
Merci beaucoup. Une question sur le rapport aux politiques, mais plutôt le rapport aux religions.
Très intéressante. Alors, je pense que évidemment là-dessus, c'est de vous que je devrais en apprendre. Donc, je vais vous donner quelques intuitions, hein. Mais je pense que c'est une question passionnante, en fait. C'est une question vraiment passionnante parce que, il s'agit de retrouver comme vous l'avez dit, dans les différentes traditions religieuses, la façon dont elles pourraient se raccrocher à tel ou tel type d'utopie. Je pense qu'on peut tenir les deux côtés de votre alternative. Il y a sans doute des traditions religieuses qui, à certains moments, peuvent se raccrocher à différents types des consciences utopiques évoquées par Mannheim, et par ailleurs à d'autres moments une seule. Hein. Je trouve donc là vraiment c'est une piste de travail qui moi me semble vraiment intéressante, d'essayer de voir comment certaines traditions, certaines expériences religieuses, expériences monacales, etc., ont quelque chose à certains égards, parfois d'une forme de discontinuité utopique, hein, et ont eu aussi sans doute un aspect proprement émancipatoire hein, lié à l'utopie. Donc j'avoue que c'est une piste sur laquelle on n'a pas vraiment encore travaillé dans ce projet que l'on a sur l'utopie, mais qui me semble tout à fait intéressant. Vraiment, vraiment. Sur l'utopie,
Sur le projet, oui.
Sur le projet lui-même. Écoutez, c'est un projet qui n'est pas à la base sur l'utopie. L'utopie est une des composantes du projet, mais c'est en effet peut-être intéressant de vous montrer comment on est arrivé à l'utopie. C'est un projet au départ qui porte, bon, qui est intitulé « Philosophie critique de l'avenir, imagination, temporalité, utopie ». Mais notre préoccupation principale, quand on a imaginé le projet, c'était de réfléchir au schème continuité-discontinuité. Hein. C'était de réfléchir à ces deux notions, deux concepts, parce que on faisait un peu le constat, pour le dire très vite et de façon pas très technique, hein, mais on faisait le constat finalement que on avait des philosophies, des pensées qui arrivaient à conceptualiser dans toute sa clarté les moments de discontinuité. Hein. On peut penser à des philosophies de l'événement, hein, qui vont penser vraiment le moment de la rupture dans la trame de l'histoire, mais qui ont parfois du mal à penser sur fond de quoi surgit cette discontinuité et comment le moment de rupture passé et de la continuité se recrée. Et par ailleurs, on a des pensées plus dialectisantes qui tentent de penser la continuité, même certes de façon dialectique, mais qui ont du mal à penser comment cette trame continuiste peut connaître des moments de rupture. Hein. L'exemple le plus clair, me semble-t-il, c'est la temporalité, l'historicité chez Husserl, hein, qui y a vraiment un présupposé continuiste qui rend assez difficile de penser au niveau de la temporalité individuelle ben, les traumas, les ruptures, ce que peut avoir de dramatique une temporalité humaine, et au niveau historique, ben, les ruptures révolutionnaires, etc. Donc voilà, c'était un petit peu notre hypothèse de départ, et c'est ce qui nous a amené à nous intéresser au concept d'utopie. Alors bon, voilà, très modestement, on commence à travailler différentes grandes réflexions sur l'utopie, mais il nous a semblé que le concept, malgré tout ce qu'il, en dépit de tout ce qu'il a de mauvais, de plurivoque, est intéressant pour articuler continuité et discontinuité. Pour vous répondre de façon très globale.
Peut-être une dernière question. Eh bien, sinon, personne ne retient sa question. Non, je ne voudrais pas. Voilà, mais écoutez, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Enfin, pour autant qu'on puisse arrêter ce type de réflexion avec un grand merci à vous pour votre présence. Et puis, un grand merci à Sébastien pour la qualité de sa réflexion. Alors, il ne vient pas de très loin, mais il a tout de même franchi une frontière. C'est aussi une manière de vivre des utopies, peut-être. Voilà. Oui. Un grand merci en tout cas, Sébastien. Merci. Mais ça, c'est ça.